RRLFC, vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nasr, une habitante du quartier Mahdi.
Le quartier Mahdi est un quartier résidentiel pour ceux qui ne le sauraient pas, au Caire, au sud du Caire.
Autour de cette table se trouvent Madame El Nasr, Mustapha, Omar et Pierre.
Pourriez-vous, Madame, nous présenter ?
Je m'appelle Madame Nasr, je suis veuve depuis une dizaine d'années et mon nom de famille est Madame Houda El Ibrachi. Et j'ai fait mes études au lycée français du Caire, où j'ai obtenu ma philo-lettre, l'équivalent de votre bachot ou baccalauréat en ce moment, je ne sais pas exactement comment vous l'appelez. Et le lycée français du Caire était considéré comme l'un des meilleurs instituts à l'étranger, français à l'étranger.
Depuis quand vous habitez à Mahdi?
Nous habitons à Mahdi depuis les années 40, mes parents. Et puis, comme je me suis mariée, j'ai toujours habité Mahdi. Mais comme je me suis mariée, je suis partie avec mon mari en Allemagne, où il préparait une thèse de doctorat sur le béton préfrontrain. Et dans le temps, il était le premier Égyptien à faire ses études et passer sa thèse de doctorat en Allemagne après la guerre. La plupart des Égyptiens, ou plutôt tous, partaient soit vers l'Amérique, soit vers l'Angleterre. Mais mon mari ne voulait pas. Et moi, entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que j'ai terminé mes études supérieures à la faculté de droit égyptienne, où j'ai obtenu ma licence de droit. Et voilà, je suis partie en Allemagne avec mon mari. Et il a passé sa thèse de doctorat sur le béton précontraint, qu'on ne connaissait pas encore en Égypte, et à Technische Hochschule de Munich, c'est l'université de Munich. Et nous sommes rentrés. Là, ma fille aînée a pris naissance en Allemagne, à Munich, et nous sommes rentrés en Égypte. Elle avait 6 semaines exactement. Nous sommes restés en Égypte, et puis j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et justement, l'aîné vit à Paris. Elle a poursuivi ses études à la faculté de lettres. Elle a obtenu une licence dans la langue allemande. Elle est sortie première avec mention excellente. Bref, posez-moi vos questions. Quelle question vous voulez dire?
À quoi ressemblait le quartier à l'époque?
Bon, justement, j'allais vous dire que Mahdi était un bassin. Le Nil était à l'ouest et les pentes sablonneuses qui était de mon cas à droite. Ce bassin-là s'est tiré de Mabdaber, du vieux Caire, jusqu'à Tora, ici. Et dans le temps, il n'était pas du tout habité, parce que les conditions d'habitation étaient très difficiles. Il y avait des avalanches et des crues, et parce que le Nil n'était pas dans sa position actuelle, ça plus ou moins dans la préhistoire. Petit à petit, le Nil a repris son lit actuellement, et alors les premiers habitants étaient des fermiers et des commerçants. Après les avalanches, quand l'eau se retirait, ils pouvaient cultiver, et puis ils vendaient leurs produits, et c'est ainsi qu'ils gagnaient leur vie. Les commerçants venaient plutôt du côté de Sinaï, de la péninsule arabique, de la Syrie, de Damas, etc., avec leurs marchandises. Ils traversaient tout le Sinaï à dos de chameaux. Et quand ils arrivaient, ils avaient un problème avec le Nil. Alors, il y avait des chalands qui transportaient les marchandises du côté de cette rive du Nil à l'autre, de gauche à droite et de droite à gauche. Et ces chalands portent en arabe le mot de ma'adiyya. Même maintenant, vous avez entendu ce ma'adiyya. Et le pluriel, c'est ma'adi. Et c'est de là qu'est venu le nom. Et puis, dans la langue courante, quand vous dites ba'adi, ça veut dire je traverse, dans le langage courant. Et c'est comme ça que ça a commencé. Avec le temps, ces inondations diminuèrent et je vous dis, ils ont cultivé leurs terres, etc. Après ça, la première ligne ferroviaire fut construite en 1873. pour une raison. Il y avait le khédive Ismaïl, qui est le grand-père du roi Farouk, et que c'était un homme qui admirait beaucoup la France, qui aimait beaucoup la France. Il voulait faire du Caire le Paris du Caire. Alors il a fait de grands projets. Et parmi ces projets, il voulait envoyer l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Il était très ambitieux. Alors il a eu l'idée de faire une ligne, construire une ligne de chemin de fer. Et elle était destinée pour le transfert des troupes. Et il avait composé une armée de 30 000 hommes. Il avait emprunté il avait énormément de dettes. Il y avait une société britannique pour la ligne de chemin de fer. Pendant les années suivantes, la ligne était totalement inutilisée. Il y avait le petit village d'Helouan. Maadi était à peu près au milieu du trajet entre le Caire et Helouan. C'était à 15 km. Et puis ils ont trouvé à Helouan des eaux sulfureuses qui étaient excellentes. Et alors les riches égyptiens possédaient les terres. Et le Khedive, commencé par le Khedive, il a construit un palais à Helouan. Et naturellement, tous les pachas, etc., ont fait comme lui. Et il y a eu un boom extraordinaire à Helouan. On voulait en faire comme une sorte de Vichy. Mais entre-temps, il y avait des juifs qui étaient très riches. Ou plutôt, ils étaient riches par rapport aux Égyptiens, ils étaient riches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des terrains à gauche et à droite de la ligne ferroviaire, et à des prix minimes. Et ils ont eu alors, il y avait deux compagnies. La compagnie Delta Land Investment, Delta Land seulement, qui achetait les terrains, et l'autre c'était la compagnie ferroviaire. Alors les deux ont eu l'idée de se joindre, d'en faire un consortium. Et c'était ça, la Delta Land Investment. Ils se sont occupés à faire de cette terre, mais a dit, les Mosseri aussi, il y avait aussi deux cousins qui étaient Mosseri, et ces Mosseri-là, ils avaient acheté des terrains à des prix dérisoires en 1904, et ils y possédaient 434 fédans. Le consortium a acheté ces terrains, et ils ont gagné à peu près 60 000 livres. Et ils ont acheté ces 60 000 livres, ils ont gagné, mais en moins de 4 ans. Ils avaient acheté dans les 40 livres le fédan, et ils l'ont vendu à 200 livres.
Donc, ils revendaient les terrains sans faire construire. C'est les nouveaux propriétaires qui faisaient construire sur ces terrains-là.
Ils ont vendu ça à la société. Ah. Et il faut remarquer que les Mosseri, les Menacha et les Suarez étaient soit parents par alliance. En fin de compte, c'était ensemble les mêmes personnes. Et alors, quand ils ont eu le terrain, ils ont commencé à faire les plans. Et il y avait un grand ingénieur qu'ils ont choisi, c'était Diamond, il s'appelait Diamond. Et c'était un architecte. Il voulait un plan où les villas, il a pensé à partager ces terrains en lots. Et chaque lot était à peu près 1000 mètres carrés, plus ou moins. Et puis, les rues étaient parallèles et perpendiculaires. Et elles portaient des chiffres et des noms aussi. Et ces terrains, il y avait des régulations qu'on ne devait pas déroger. Ce qui veut dire, les maisons devaient être soit blanches, soit de couleur neutre. Les fenêtres, les contrevents, soit vert, soit rouge, soit neutre. Et puis, l'enceinte ne devait pas dépasser 5 mètres de hauteur. Et en même temps, la base devait être maximum 50 cm bâtie. Et puis, après, tout le feuillage. Ils s'intéressaient beaucoup à l'environnement. Ils ont importé de Madagascar et de l'Afrique du Sud, les eucalyptus, toutes sortes de bois. Et plus tard, les personnes qui ont acheté ces villas, il y avait une Française qui était très réputée, Henriette. Elle avait introduit les roses trémières, qui étaient très belles. Et elle était connue, pas pour ça aussi, elle était férue d'art musulman. Et elle a fait toute une étude sur les monuments, les mosquées, etc.
Et donc tout ça, c'était pendant les années 10,
oui.
1910-1920.
Oui, exactement. Et elle s'appelait Henriette. Le roi, des années plus tard, lui a décerné le grand ordre de l'Égypte. Il s'appelait l'ordre de Kamel. Et celui qui l'aidait, c'était un caporal britannique, Creswell, qui plus tard est devenu peut-être le plus grand, un des plus grands savants dans l'art islamique.
Et alors justement, les militaires britanniques, ils ont utilisé Mahdi aussi. Est-ce que Sakhanat ne rappelle pas cette occupation?
Oui, c'est ça. Je voulais vous dire, au cours des années, l'Égypte a évolué du point de vue politique. D'abord, Tawfik, il y a eu une révolution contre lui. Naturellement, on l'a présenté comme une théorie de l'armée, mais au fond, c'était une révolution d'Arabie et qui était allée devant le palais du Khedive Tawfik, et il lui a dit : nous voulons un parlement. Alors, il lui a dit : vous êtes sortez de mon palais, vous n'avez pas le droit d'entrer ici, même de me parler. Et il s'est tourné vers les Anglais qui l'ont aidé. Et il a maté cette révolution, qu'on a présentée comme une mutinerie, mais au fond, c'était une révolution qui voulait la liberté pour le peuple. Mais elle a été matée et on l'a exilée. Et le Tawfik est resté, il a commencé, je vous dis, à faire ses projets, etc. Et Helwan, et puis il a accepté que l'on fasse Mahdi. Et c'est comme ça que Mahdi a commencé. Je crois en 1912, il y avait 8, et il avait fini 30 villas. Et ils ont commencé par le milieu, et puis ils s'étendaient. Et cette famille, les Mosséri, quand ont obtenu ce gain immense, alors ils ont fait ce que font les Égyptiens en général, qu'ils soient musulmans, coptes ou juifs, c'est la même chose. Ils construisent une maison à Dieu. Alors avec cet argent, ils ont construit la synagogue qui est au Caire. Et plus tard, ils ont construit une autre ici à Miadi. C'était en 1912 quand les 30 maisons, les premières 30 maisons qui ont été construites.
Et vous, quand est-ce que vous êtes arrivé à Mahdi alors?
Nous sommes venus en 1940.
Donc ça s'était beaucoup développé.
Oui, ça
s'était. Mais toujours des maisons individuelles ou ça avait changé?
Non, c'était des villas, mais vous savez, jusqu'aux années 60, Mahdi était très bien. Malheureusement, cette compagnie-là, ce consortium, avec l'âge, avec les années, surtout au cours de l'histoire, parce que tout va en parallèle avec l'histoire. En 1914, la première guerre mondiale, la France, l'Égypte était occupée par les Anglais. On la considère comme un protectorat. Ils ont installé un camp militaire pour les forces armées ici à Mahdi, à Dikla. Et ils sont restés à Robert Devonshire.
Et donc, Sakhanat,
alors je vous dis, il y avait des troupes de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, des colonies occupées par les Anglais. Ils sont restés à Degla les 4 années de guerre, et puis ils sont rentrés chez eux. Et d'ailleurs, il y avait un bâtiment. Plus tard, la Nouvelle-Zélande ont envoyé un représentant qui a construit une sorte de mausoléum pour les soldats qui sont tombés dans la guerre. Mais plus tard, il a été démoli. Ça, dans les années 1914 jusqu'à 1918. Les Anglais avaient promis, entre-temps, en Égypte, et il y a eu une autre révolution en 1919. C'était la grande révolution de Saad Zaghloul, où tout le peuple égyptien a participé, femmes, enfants, musulmans, coptes, etc. Et il a eu ces deux phrases célèbres qui sont célèbres dans l'histoire. la religion est pour Dieu, la nation est pour tout le monde. Et le croissant et la croix s'entrelacent. Et dans cette révolution, les aulimas, les chers, les prêtres, les femmes, les enfants, tous ont participé, beaucoup sont morts. L'Angleterre avait promis à l'Égypte, après la fin de la guerre, de lui donner son indépendance, ce qui ne s'est pas arrivé. Alors il y a eu cette grande révolution. Ils ont exilé Saad Zaghloul avec ses compagnons. Et plus tard, ils sont revenus encore, les représentants de la nation.
Qui est le nom de leur parti.
Oui, c'est le nom du parti qui veut dire représentant du pays, du peuple. Ils sont allés à Versailles. Et pendant des années de négociations, et enfin en 1922, l'Égypte est devenue indépendante.
Et est-ce que Mahdi a changé?
Et Mahdi, des Égyptiens sont venus. Les Égyptiens, au début, ne s'occupaient pas de Mahdi. Ils s'occupaient seulement de la lutte contre l'occupant. Quand ils ont été libérés, ils ont commencé à se tourner vers ce quartier. Et entre-temps, la compagnie a inauguré le club de Mahdi. Et c'était le club de Mahdi était inauguré en 1922. C'était un club sportif. Il avait des terrains de tennis, de football, de golf. Le terrain de golf était très beau, mais c'était du sable. Ils ont eu d'excellentes équipes, surtout dans la natation. Dans la natation, ils ont obtenu des championnats dans le monde. Et dans le tennis aussi. Le champion du monde dans le plongeon en 1930-31 était un Égyptien, Thalit Semeka, du club de Mahdi. Entre 1930 et 1935, ça c'est important aussi, ils ont fait beaucoup de fouilles à Degla. Les soldats qui étaient dans les casernes savaient qu'ils étaient en Égypte. Alors ils sont devenus comme fous pour essayer de trouver des vestiges de l'ancienne Égypte. Ils ont trouvé, mais plus tard, entre 30 et 35, et il s'est avéré que dans cette partie de l'Égypte, depuis 3500 ans, il y avait une civilisation. Ils ont trouvé des peaux, un squelette d'un mammifère, d'un hippopotame immense, mais tenu en ligne verticale. Autour d'eux, des pierres. Alors, ils ont pensé que l'on considérait comme c'était une divinité ou quelque chose d'approchant. Et au cours de ces années, des années 30, il y a eu deux grandes inondations. Les inondations dans les années 30, c'était exactement la veille du Nouvel An. Et les gens étaient dans une grande réception, ils sont sortis, et les voitures, et tout c'était terrible. 2000 personnes, le petit village surtout, 2000 personnes ont perdu leur terrain, leur maison, etc., dans les petits villages. Et les habitants de Mahdi, c'était l'enfer. Puis, après avoir tout nettoyé, etc., ils ont eu je ne sais plus combien de mètres cubes. De limon. Mais
et ces gens qui habitaient Mahdi, c'était des résidences secondaires ou est-ce qu'ils habitaient l'année?
Non, toute l'année. Et puis c'était des gens aisés. Alors ils pouvaient se permettre de réparer toutes les infortunes qu'ils ont eues, mais ils ont eu la joie, disons, ou ils étaient l'étonnement de voir tout le terrain vert. À cause du limon. Et puis,
même le golf.
Le club, c'était...
Le club des cafés, des commerces,
oui,
etc.
Oui, il y avait le commerce, pas tellement, c'était la rue Neuve seulement, où il y avait les magasins, etc. Et le club, c'était le grand amusement, si vous voulez. Et des années plus tard, ils ont installé un cinéma open air qui donnait des films américains trois fois par semaine ou même chaque jour plus tard. Et puis il y avait le tennis et il y avait des compétitions pour la natation et le terrain de golf qui était très beau. D'un autre côté, les habitants de Mahdi ne voulaient pas trop de bruit. Ils aimaient le quartier justement pour sa tranquillité. Et dans le temps, quand nous sommes venus à Mahdi, dans le temps, il y avait très peu de voitures. Les gens circulaient à bicyclette et on prenait le train pour aller au lycée. Il n'y avait pas d'autobus. La corniche n'était pas encore bâtie. La corniche, elle a été bâtie après la révolution.
Y a-t-il eu des transformations positives?
Oui, naturellement. Pour la société elle-même, elle a essayé de faire de tout pour rendre le quartier habitable. Et il y avait des écoles françaises. Et puis le lycée français a ouvert ses portes.
Que regrettez-vous le plus?
La tranquillité, la propreté, l'ordre, tout. Je regrette tout, malheureusement. Je vous dis, jusqu'aux années 60, Mardi était vraiment très, très belle. Un très beau quartier, tranquille. D'abord, je vous dis, j'ai oublié de vous dire que quand ils ont fait ce consortium et quand ils ont commencé à dresser les plans, ils ont écrit un cahier de charges où les régulations étaient très strictement écrites. Clairement, on ne devait pas en déroger. Les maisons ne devaient pas dépasser 15 mètres. Et puis, donc, on devait laisser beaucoup, 5 mètres d'ici et 10 mètres de là, entre l'enceinte et le voisin, etc. Et tout ça, on ne devait pas construire plus que 50% de la superficie du terrain. Je veux dire, ce que je regrette, par exemple, d'abord que les villes étaient démolis, remplacés par des immeubles hideux, ou même s'ils ne sont pas hideux, c'est l'enfer. Personnellement, j'en souffre. Moi, je vis dans une villa à 2 étages. Derrière moi était une villa toute petite, à 1 étage, avec un grand jardin. À côté de moi, moi, je vis sur un coin, sur le rond-point. Et de l'autre côté, une petite villa d'un étage. Et c'était même un bungalow qui appartenait au ministre, l'ancien ministre de la Santé. Et quand il est mort, ils avaient un appartement à Garden City. Et quand il est mort, la femme a loué ce bungalow. Mais toujours, il y avait des acacias, des manguiers. C'était super. De ma chambre à coucher, on se levait, on ne voyait que du rose. C'était magnifique. Maintenant, nous sommes partis en Allemagne, mon mari, mes enfants et moi, nous sommes rentrés. Et nous avons eu l'horreur de voir cet immeuble, ce petit bungalow totalement détruit, les arbres rasés. Je dis, j'avais envie de pleurer. Je dis, ces arbres devaient pleurer. Et un immeuble qui est beau, enfin, mais enfin, c'est du ciment, et de la pierre, rien du tout. Et ces villas-là, beaucoup sont morts. Alors les héritiers vendent et on ne se tient plus aux régulations.
Êtes-vous toujours heureuse de vivre à Mahdi?
Oui, naturellement. Malgré tous ces défauts, c'est un quartier que je préfère. J'ai beaucoup de souvenirs.
Etc. Il faudra que vous reveniez et nous parler de l'histoire du lycée français, après oui, l'histoire de Mahdi.
Vous êtes trop gentille.
Merci, madame.
Vous êtes trop gentille.
Pour tout ce que vous nous avez fait comprendre.
Vous êtes trop gentille, mes enfants.